du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes le dimanche du Bon Pasteur, et comme vous le savez, dans notre paroisse, comme on célèbre la messe sous les deux formes, eh bien, c'est-à-dire la forme tridentine et la forme ordinaire de la messe, eh bien, il se trouve que le dimanche du Bon Pasteur, c'était la semaine dernière, dans la forme extraordinaire. Alors je n'ai pas voulu refaire le même sermon. Si vous voulez entendre quelque chose spécifiquement sur le prêtre et sur sa mission au milieu du peuple, ben, il vous suffit d'aller sur le site de la paroisse pour réécouter mon homélie de la semaine dernière. Je vais donc prêcher sur le pasteur, car ici, en lien avec son peuple, car il me semble ici qu'il y a à la fois, c'est ce qu'on appelle en droit un acte réceptif, il y a à la fois quelque chose qui est émis et quelque chose qui est reçu. Et c'est de cette collaboration entre le pasteur et son peuple que l'Église se répand vraiment sur terre. Il y a un enclos, et cet enclos, c'est l'Église. Ce n'est pas un enclos pour nous tenir enfermés. Ce n'est pas l'Église qui nous enferme, c'est nous qui fermons l'Église, physiquement ici. Mais nous la fermons car nous avons un trésor précieux. Et nous voulons non pas la fermer pour que personne ne la voie, mais pour pouvoir mettre à l'intérieur, à l'abri de l'Église, tous ceux qui le veulent. Cet enclos s'appelle le credo, tout simplement. Alors évidemment, il s'agit d'un enclos spirituel, d'un enclos intérieur, et dès lors que vous pouvez dire le credo, je crois en Dieu, de l'Église, eh bien vous êtes à l'intérieur de l'enclos, vous êtes protégé de toute erreur. Alors voyons donc comment se comportent les véritables brebis et comment se comporte le véritable pasteur. Il me semble qu'on peut y voir les trois charges de l'Église à travers ce que l'évangéliste ici nous rapporte. Le pasteur entre par la porte et les brebis écoutent sa voix. Il me semble qu'il y a là la sanctification. Le pasteur connaît les brebis et les brebis connaissent la voix du pasteur. Il y a là l'enseignement. Enfin, le pasteur fait sortir ses brebis et les brebis le suivent. Il y a là le gouvernement. Ce sont les trois missions de l'Église, Mater et Magistra, qui enseigne, protège, amène cette maîtresse de vie spirituelle qui nous amène à la vie. Il n'y a pas d'autre but, la collecte du début de la messe l'a dit. Eh bien, ces trois fonctions dans l'Église, ces trois plus exactement, ces trois charges, ces trois mounous, ces trois munera, eh bien, nous les exerçons pour vous et avec vous. Voyons-les tout simplement les uns derrière les autres. Mon plan aura donc trois points. D'abord, sanctifier. La mission de sanctification, je la vois ici par le pasteur qui entre par la porte, parce que la porte, c'est les sacrements. Il est parfois marqué sur les portes des églises, ce n'est pas le cas de la nôtre, « Hic est domus domini » et « Hic trat interportacem » à travers, « traportacem ». Je mélange l'italien et le latin maintenant, mais ce n'est pas très grave. Et donc, la porte du ciel, symboliquement marquée parfois sur l'église, vous vous en doutez bien, ce n'est pas en passant la porte d'une église que ça y est, vous êtes sauvé, ce n'est pas ça. Non, c'est en entrant par la porte qui est vraiment l'Église, c'est-à-dire les sacrements répandus sur nous jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire le corps mystique du Christ dans lequel vous vous incorporez. La porte du ciel, c'est les sacrements. Dieu l'a voulu ainsi, je n'y peux rien. Alors on peut dire, ah oui, mais alors Dieu peut donner sa grâce autrement. Oui, le Seigneur donne sa grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut. C'est comme ça d'ailleurs que d'aucuns peuvent se convertir, reconnaître la foi sans avoir jamais reçu de sacrement. Alors il le désire, si c'est la vraie foi qu'il désire. Donc la porte de l'Église, c'est les sacrements. Voilà pourquoi le pasteur passe par la porte. Un pasteur qui ne passerait pas par les sacrements, par où passerait-il? Il passerait par sa grande intelligence, par ses idées géniales. Eh bien, c'est un bandit. Il doit recevoir ce qu'il donne. Il doit passer par là où passe le Christ. Et le Christ a voulu, en instituant les sept sacrements et en les confiant à l'Église, il a voulu que nous passions par cette porte. Le symbole de ce que je passe par une porte que je n'ai pas choisie, que je n'ai pas inventée, c'est que dans les sacrements, les choses ne sont pas laissées à ma guise. Il n'est pas laissé à mon idée de savoir si je mettrai pour dire la messe une aube ou pas d'aube. si je mettrais une étole ou pas d'étole, une chasuble ou pas de chasuble. Non. C'est ce qui m'est transmis par l'Église, c'est ce qui m'est donné, et c'est pourquoi je pars par la porte qui est l'Église, cette porte qui pour moi se traduit dans le missel qui se trouve sur l'autel. Méfiez-vous des prêtres qui ne mettent pas de missel sur l'autel. D'où tirent-ils les paroles qu'ils vous donnent? De leur poche, de leur invention. Ou alors ils ont tout appris par cœur, parce qu'ils sont aveugles. Il existe toujours des cas extraordinaires. Mais habituellement, on met un missel sur l'autel et on le lit. C'est ça la porte des sacrements de l'Église. Voilà pour le pasteur qui sanctifie. Mais les brebis écoutent la voix du pasteur. Elles participent activement, comme l'a rappelé le Concile Vatican II, à cette liturgie qui est reçue. Elles y participent en étant attentives. L'attention. Vous n'êtes pas là pour entendre la messe. Vous êtes là pour l'écouter. Alors, qui peut le plus, peut le moins, parce que pour écouter, il faut d'abord entendre. C'est vrai. Il faut donc être là pour recevoir quelque chose. Vous ne pouvez pas être là, vous les brebis, en visiteur. On peut être là en visiteur, enfin pas en ce moment, puisque les portes sont fermées, mais on peut parfois visiter une église pendant un office, sans le déranger. Là, on n'est pas les brebis. On peut parfois venir à la messe en regardant et en se disant, tiens, le prêtre n'a pas fait ça. Ah, il aurait pu dire ça. Moi, j'aurais fait comme ça. Alors là, vous n'êtes pas les brebis non plus. Vous devez écouter. Ce qui ne veut pas dire, j'ai parlé d'obéissance tout à l'heure, obéissance, ça vient de l'écoute. Ob audire, écoutez avec respect, écoutez d'en haut. Voilà pourquoi les enfants sont naturellement obéissants. Ils nous écoutent d'en bas. Eh bien oui, je suis désolé de vous le rappeler, mais il faut écouter d'en bas. Mais ça vaut pour moi aussi, car nous écoutons, vous, votre pasteur propre, votre curé, moi, l'évêque, l'archevêque, mon pasteur ordinaire propre, et l'archevêque écoute le Saint-Père, qui dans le collège des évêques se met à l'écoute du Saint-Esprit. Voilà ce qu'est la sanctification de l'Église. Il n'y a pas d'autre voie pour sanctifier l'Église que celle-là. Le Seigneur Dieu, lui, fait bien comme il veut, il sanctifie qui il veut, quand il veut, je l'ai dit, mais il nous a justement laissé ça pour qu'il a voulu que nous nous sanctifions de la sorte. Voici la première mission de l'Église, sanctification, que les pasteurs ont charge de transmettre et que les brebis ont charge de recevoir. Deuxième mission dans l'Église, l'enseignement. L'enseignement, je la vois ici, puisque le pasteur connaît ses brebis et les brebis connaissent sa voix. L'enseignement est une question de connaissance, est une question de connaturalité intellective, si je peux employer ce terme, un peu antinomique, mais car notre intelligence nous est déjà donnée naturellement, mais elle est surélevée par la grâce qui nous donne de connaître Dieu. Alors le pasteur connaît ses brebis, en tout cas il le doit. Le Saint-Père, le pape François aime, au début de son pontificat, surtout aimé à rappeler souvent que le pasteur avait l'odeur de ses brebis, c'est-à-dire qu'il était parmi eux. Par parenthèse, ça suppose que le pasteur reste assez longtemps pour en avoir l'odeur. C'est pour ça que nous ne sommes pas des fonctionnaires qui remplissons d'année en année un service différent, mais que nous sommes vraiment des pasteurs, que nous restons, et si possible longtemps, parmi le troupeau, pour s'en imprégner. Et oui, je ne sais pas combien de temps je resterai pasteur de ce troupeau, de cette paroisse, mais il y a fort à parier que quand j'en sortirai, quand l'archevêque me demandera de partir ailleurs, eh bien j'en sortirai différemment de ce que je suis entré, avec une odeur, un style différent. Et voilà. Il nous faut du temps pour nous mettre à l'écoute de nos brebis. Et dans l'Église, il m'est demandé d'écouter institutionnellement, hiérarchiquement, c'est-à-dire d'écouter mon conseil pastoral, d'écouter mon conseil économique, d'écouter ce qui m'est dit, quand on veut bien me parler, bien entendu, c'est-à-dire quand on est vraiment du troupeau et qu'on va parler à son pasteur, à son père, pour lui dire combien on l'aime, combien ce qu'il fait vous plaît, ou alors combien ce qu'il fait vous plaît moins. C'est possible. L'obéissance n'est pas un abrutissement, c'est une collaboration. Alors les brebis, elles, dans l'enseignement sont donc chargés à la fois d'écouter l'enseignement du bon pasteur et de le connaître. Connaître sa voix, le reconnaître. Comment fait-on pour connaître la voix de son pasteur ? Le pasteur, c'est le Christ, hein, nous sommes d'accord. Je n'en suis que l'instrument. Alors, pour connaître le bon pasteur, il faut se former. Bien sûr, il vous faut lire le catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme de l'Église catholique, le dernier que nous ayons, publié par Sa Sainteté le pape Saint Jean-Paul II, eh bien, c'est le Concile Vatican II. Parce qu'on parle souvent du Concile Vatican II. On parle de ces textes, on parle de ceci, on parle de cela, qui sont des textes un peu savants, un peu difficiles. Mais pour nous, pour moi aussi d'ailleurs, hein, simple prêtre, eh bien, pour moi, le Concile Vatican II, c'est son produit fini, arrivé jusqu'à nous, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Alors il vous faut lire le catéchisme, parce que sinon vous ne connaîtrez pas la voix du vrai pasteur. Je suis sûr que vous le lisez, que vous, peut-être certains le connaissent par cœur. C'est assez gros quand même. Hein. Mais si vous en lisez tous les jours 2 pages, on a le temps, hein, on a l'éternité pour nous. Mais si vous en lisez tous les jours 2 pages, j'imagine que dans 4-5 ans vous aurez fini, et vous serez savant. Vous serez savant en théologie, c'est-à-dire dans la voix du pasteur, vous allez la reconnaître. C'est comme ça que le bonum sensus fidei, le bon sens de la foi, vient au peuple de Dieu. Les brebis savent là où on leur ment et là où on leur dit la vérité. Les brebis ne sont pas bêtes, parce qu'elles se forment, pas parce qu'elles volent au gré de quelque envie ou je ne sais quoi. Ce ne sont pas des feuilles mortes qui ont des idées dans le vent. Non, ce sont des brebis, des hommes libres, des femmes déterminées et libres, qui reçoivent cette parole divine de l'Église, du Christ à travers l'Église, dans l'Écriture sainte et la tradition, et cela passe par un temps de formation. Lisez tous les soirs 1 page, 2 pages du catéchisme de l'Église catholique. Je vous assure que le bon sens de la foi vous viendra immédiatement et vous pourrez le transmettre en le rapportant à ceux qui l'ignorent. Il faut donc écouter ce bon pasteur et ensuite le visage de ce bon pasteur qui vous est donné dans l'Église. Et d'abord, c'est votre curé. Voilà. Eh bien, je ne prêche pas pour ma paroisse, ou plutôt aussi je ne prêche pas pour moi, mais pour ma paroisse. Il ne vous est pas donné pour l'instant d'autres curés. Il ne vous est pas donné d'autres archevêques pour l'instant. Il ne vous est pas donné d'autres papes pour l'instant. Eh bien, c'est ceux qu'il faut écouter. Avec liberté, intelligence, profondeur, sens de la foi, de cette liberté qui fait de vous des enfants de Dieu, qui ne sont esclaves de personne. Mais il vous faut donc vous livrer à cette écoute et à cette formation intérieure. Il vous faut donc connaître votre curé. Quel est le paroissien parmi vous qui ne m'a pas encore invité à déjeuner pour parler tranquillement ou prendre un thé? Je ne suis pas obligatoirement invité à déjeuner, mais qui ne m'a pas encore invité à prendre un café, un thé, un verre, une balade, pour savoir, mais qui est cet homme qui a la lourde charge de représenter l'enseignement de l'Église? C'est ainsi que vous vous faites une bonne idée, car il n'y a pas parmi vous, j'en suis sûr, je l'espère, d'aucun qui se ferait une idée, un préjugé. Oh, l'archevêque a déclaré ça aujourd'hui, c'est un bon archevêque. L'archevêque a déclaré ça aujourd'hui, c'est un mauvais archevêque. Oh là là, mettons-nous à l'écoute tranquillement, fréquentons-nous, regardons. C'est dans la durée qu'on sait si un père est un bon père, si une mère est une bonne mère. C'est pas sur un coup de tête d'une journée. Alors bien sûr, il vous faut, pour votre curé, votre archevêque, le Saint-Père, il vous faut vous mettre à l'écoute, faire le chemin. Alors vous serez enseigné, vous reconnaîtrez la voix du pasteur, vous corrigerez parfois ses petites erreurs, ça arrive. Un curé n'a pas la science infuse, l'archevêque non plus, même pas le pape. Sa valeur de sa parole infaillible, il l'utilise rarement. Hein, c'est quand il prononce des paroles ex cathedra, la dernière fois qu'un pape l'a fait, c'était en 1950. Alors vous voyez, on n'abuse pas. Fréquentez vos pasteurs, fréquentez la parole de Dieu, fréquentez l'un et l'autre et joignez-les afin d'être vraiment ces brebis dont parle le Seigneur qui connaissent la voix de leur pasteur. Enfin, cette troisième fonction dans l'Église, troisième mission, gouverner. Gouverner les âmes. Le pasteur fait sortir ses brebis et les brebis le suivent. comme toujours, un acte du pasteur qui doit trouver une réalité dans le troupeau. Le pasteur fait sortir, cette parole chère au pape François qu'il utilise souvent, une église en sortie. Eh bien oui, il nous faut sortir. Il nous faut sortir de notre sacristie. Vous savez combien beaucoup de nos faux amis, plutôt de nos ennemis, disons-le clairement, aimeraient-tant que l'on reste enfermé dans nos sacristies, que l'on dise nos pâtes nôtres, nos chapelets et tout ce qu'on veut, mais surtout qu'on n'entende pas parler de nous. Eh bien non, nous sommes chargés de sortir, je suis chargé de vous emmener dehors. Dehors, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la rue, des processions. Ça veut dire dans vos familles, oser parler de Dieu. Ça veut dire auprès de vos amis, dans votre travail. Il nous faut sortir partout où les gens ne viennent pas à la messe. Il y a déjà ceux qui sont ici, qui viennent à la messe, enfin pas aujourd'hui, mais ceux qui normalement sont dans l'église. Vous l'êtes, vous qui m'entendez, qui m'écoutez, vous êtes à l'intérieur de cette église, puisque vous vous préoccupez un dimanche de sanctifier votre journée en priant Dieu. Eh bien, il nous faut pas seulement penser à cela, mais il nous faut penser à ceux qui n'en ont pas l'idée. Il nous faut sortir de nos petites habitudes pour passer. Il nous faut donc être périlleux. C'est dangereux de sortir. Il y a quelques temps, il y a 3 semaines de ça, je suis sorti pour le Jeudi Saint. Je suis sorti sur les toits de l'église pour bénir du haut des toits de l'église. Alors beaucoup de gens m'ont dit « Oh là, comme c'est dangereux !» C'est beaucoup moins dangereux que de sortir habituellement de nos habitudes et d'aller parler de Dieu à nos amis, à nos collègues, à notre famille. Ça, c'est périlleux. Je vous rassurez-vous sur les toits, j'étais bien assuré et nous ne sommes pas avancés de manière inconsidérée. Mais je vous souhaite beaucoup d'audace pour sortir, pas sur les toits, mais pour sortir de vos petites conversations habituelles et d'annoncer le Christ. C'est ma mission. Nous ne pouvons pas rester en citadelle. À partir de l'Église, il nous faut sortir et j'ai charge de vous emmener dans la cité. Je n'ai pas charge de faire de la politique, je n'ai pas charge de faire du commerce. J'ai charge de vous guider spirituellement pour que vous trouviez le chemin dans là où vous êtes comme laïc, c'est-à-dire politiquement, commercialement, dans toutes les relations normales, vous trouviez le sens de Dieu. Et vous, vous avez charge de suivre le bon pasteur qui vous emmène vers la vie. Il n'y a pas d'autre but que la vie éternelle. Ce que nous prêchons, c'est la résurrection du Christ et la rédemption, c'est-à-dire cette résurrection appliquée aux hommes. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être tristes, même dans l'adversité. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être désespérés, même dans la contradiction. Voilà pourquoi nous ne pouvons jamais cesser de travailler à l'œuvre de Dieu, car cette œuvre est trop importante, c'est la vie éternelle, la nôtre, et celle des gens pour qui nous prions, celle des gens que nous rencontrons. Voilà la mission de l'Église éternellement, annoncer le Christ jusqu'à ce qu'il vienne et lui amener le monde pour que ce monde vive, qu'il ait la vie, qu'il ait en abondance. Nous n'avons rien d'autre à proposer, mais que peut-on proposer après avoir proposé la vie? C'est la vie éternelle. Eh bien, que tous ceux qui vous rencontrent, comme des chrétiens dans le monde, d'autres Christ envoyés au milieu du monde, puissent rencontrer, à partir de l'Église, ce Seigneur qui donne la vie, maintenant et pour toujours. Ainsi soit-il.